Au milieu de ces pas à chat, il y a ce dont on a parlé au début, au tout début, premier rachis de Bereshit. Vous vous souvenez, il avait ramené ce Rabbi Yitzhak qui disait que normalement la Torah, elle aurait dû commander, commencer à Chodesh HaZeh. Si la Torah était un sefer de mitzvot, elle aurait dû commencer avec la première mitzvah qui concerne le Klal Israël. Cette première mitzvah qui concerne le Klal Israël, c'est la mitzvah qui est dite dans la Chodesh HaZeLachem, c'est-à-dire quand Kadosh Baruch Hu nous a donné un nouveau calendrier, calendrier qui n'abolit pas l'autre. On a deux calendriers qui fonctionnent en parallèle. On a toujours un calendrier qui commence en automne, et là, on a un nouveau calendrier qui commence au printemps, dont le premier mois est le mois de Nissan. Et cette phrase de Chodesh HaZeLachem, elle est dans Parshat Bo. Donc, d'une certaine manière, jusqu'au Perek Yud Bet, jusqu'à presque la fin de Parshat Bo, c'est quelque chose dont la Torah nous, dont il a, on nous a dit au tout début de Bereshit que Koach Ma'asav Yigid La'amo. Akadosh Baruch Hu, il a raconté, ou Yigid, il a raconté, il a dit à son peuple, Koach Ma'asav, c'est-à-dire la puissance de ses actions, mais aussi le Koach, ça veut dire peut-être aussi la force qu'il y a derrière ses actions, c'est-à-dire que pour comprendre ce qui va se jouer à partir de ce chapitre Yudbet, à partir de la fin de la presque fin de Parshat Bo, eh bien, on a besoin de tout ce qui nous a été raconté dans Sefer Bereshit et dans les parshiot de Shemot Vayera et du début de Bo. Tout ça, c'est nécessaire pour qu'on comprenne ce qui se joue, ce qui va se jouer après. Donc, c'est la mise en place de toutes sortes de choses qui vont nous aider à comprendre un peu ce qui se joue. Ça veut dire aussi, par exemple, que tout le chiboud, tout l'esclavage tout l'esclavage, toute la et même la sortie d'Égypte elle-même, enfin peut-être pas la sortie d'Égypte, mais la quasi-totalité de l'esclavage fait partie des choses qui sont nécessaires pour comprendre la sortie d'Égypte, quoi. Comprendre ce qui va se jouer à partir de la sortie d'Égypte, pour comprendre ce qui va se passer avec l'histoire du Klal Israël, cette histoire qui commence en fait à la naissance du Klal Israël. Le Klal Israël, il est en train de naître au moment de la sortie d'Égypte. Et donc, on peut considérer que tout ce qui est en amont de la sortie d'Égypte, en gros, en amont de ce Chodesh HaZeLachem, le paradoxe, c'est que cette première mitzvah, qui est la mitzvah de maîtrise du temps, d'accord, c'est-à-dire on a un nouveau calendrier, mais du coup, on apprend là-bas, on apprend la mitzvah de Kiddush HaChodesh. On apprend la mitzvah de définir, il incombe au Sanhédrin de décider quand commence le nouveau mois de chaque mois. Quand commence chaque nouveau mois? Ça commence lorsque deux témoins sont venus et disent, nous avons vu la nouvelle lune, on a vérifié que ce qu'ils disaient tenait debout, et le chef du Sanhédrin proclame, il dit, Mekoudash, le nouveau mois est sanctifié. Et donc, du coup, ça fait le premier du mois. Alors, ça se décide selon le témoignage de deux personnes qui ont vu la nouvelle lune, c'est-à-dire c'est un tout petit croissant de lune à ce moment-là. Et le problème, c'est, est-ce qu'ils ont peut-être, faut vérifier qu'ils n'ont pas confondu ça avec un petit nuage qui était un peu mal placé, etc., ce qui est très possible. Et de toute manière, ils avaient des tableaux et ils savaient exactement quand il était possible d'avoir vu la nouvelle lune. Donc, on faisait un interrogatoire des gens, est-ce que c'est ça qu'ils ont vraiment vu, etc. dans quel sens il était, le croissant, comme ci, comme ça, pour voir s'ils ont vu quelque chose, quoi. Et le cas échéant, donc on proclamait, mais le tribunal qui proclamait cela, il était souverain, ça veut dire que si ça ne lui plaisait pas de proclamer ce jour-là, il pouvait décider de le décaler. Pas de 15 jours, hein, d'un jour. Un jour, c'est parce que si on veut pas, on voulait pas que Yom Kippour tombe tel et tel jour de la semaine, par exemple, alors on pouvait se décaler d'un jour. Et c'est cette idée que les Bnei Israël gèrent le temps, c'est ce qu'on dit quand on dit dans la bracha qu'on fait à Yom Tov, on dit Mekadesh Israël Vehazmanim, Hachem sanctifie les Bnei Israël qui eux sanctifient le temps. Et cette sanctification du temps, c'était une des choses que, par exemple, à l'époque qui a précédé Hanouka, les Grecs n'ont absolument pas accepté de la part des Bnei Israël. Ils nous ont fait des problèmes, ils ne nous ont pas laissé être Mekadesh, sanctifier le nouveau mois. Bon, mais avant d'arriver là, il y a encore du travail, parce que on a vu la semaine dernière les sept premières Makot. Il en reste trois. Encore certains disent que le nom de la paracha, Bo, qui s'écrit Bet Aleph, c'est la gematria de trois. Donc, c'est parce qu'il y a trois, il reste trois makot à trois makot, c'est-à-dire, il nous reste les sauterelles, les ténèbres et Makat Bechorot. Alors, la paracha, elle commence de façon étrange si on se rappelle, on est à la septième Maka. Alors, Vayomer Hachem El Moshe. Hachem parle à Moshe et il lui dit, Bo El Paro. On traduit toujours va, mais en fait, Bo, ça veut dire viens. Viens avec moi, quoi. On ne dit pas Bo à quelqu'un. On dit l'air, si tu veux dire va. Mais beau, ça veut dire viens. Donc c'est comme si Hachem disait à Moshe, beau El Paro, ça veut dire on y va ensemble, quoi. Viens avec moi, chez Paro. Parce qu'effectivement, quand Moshe va se trouver devant Paro, il va dire ce qu'Hachem va lui dire de dire. Va lui dire de dire. Alors, viens chez Paro, qui anir parce que moi j'ai alourdi le cœur de Paro et celui de ses serviteurs. Alourdi le cœur, ça veut dire lui donner du poids à son cœur pour qu'il puisse résister. Il va résister. Pourquoi tout à coup on le dit ici, il a résisté jusqu'à présent? Justement, ici, Akadosh Baruch Hou dit que, en fait, il a déjà cédé pratiquement Paro, parce qu'il a dit, il a déjà reconnu que Hachem a tzaddik, que Hachem et Moshe sont les tzaddikim, et que lui il a tort, et lui et son peuple et tout. Donc normalement, il a reconnu. Donc, à cause des makot, des coups, là, il pourrait céder. Ça fait trop mal, quoi, finalement. Mais Hachem dit, moi, j'ai endurci son cœur ou alourdi son cœur pour qu'il résiste un peu, parce que le ma'an, afin que shiti ototai ele, que je puisse mettre mes signes, bekirbo, au sein de l'Égypte, je veux manifester. Marquer le territoire, marquer ma présence, m'imposer aux yeux des Égyptiens. Donc, ce qui vient maintenant, c'est une leçon particulière pour les Égyptiens, d'une part, mais c'est aussi où le Ma'an est aussi afin que de sa père, que tu racontes, et Hachem s'adresse à Moshe. que tu racontes, toi et les Bnei Israël aussi, tu racontes de Osné Vincha aux oreilles de ton fils et de ton petit-fils, donc de tes enfants et de tes petits-enfants, veux que tu leur racontes Et Asher it alalti be Mitzrayim. Le fait que j'ai joué avec l'Égypte, je me suis joué aussi de l'Égypte, je me suis joué de l'Égypte, j'ai joué avec l'Égypte. Donc, tu vas raconter ça, et tu vas aussi raconter et Ototai, Asher samti varam. Tu raconteras aussi à ton fils, ton petit-fils, les signes que j'ai posés en Égypte, toutes les manifestations. Et puis, grâce à cela, vidatem, et vous saurez, toi et les Bnei Israël, qui ani Hachem, qui ani Hachem. C'est une façon de savoir qui ani Hachem. Alors, vous vous souvenez, on avait déjà vu que quand Hachem dit Ani Hachem, ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis fiable, on peut me croire. C'est vrai que je donne un salaire positif à ceux qui marchent devant moi, les gens qui font ce que je demande qu'ils fassent, je les récompense. Alors où est-ce qu'ils vont voir ça? Ça, ils vont pas vraiment le voir. Ils vont voir le contraire. Enfin, pas le contraire, mais ils vont voir que si ceux qui ne marchent pas ne font pas ce que je dis, eux, ils sont sanctionnés. Ils vont voir que l'Égypte va être sanctionnée. Ils ne vont pas voir que je donne un salaire, parce que les Israéliens, pour l'instant, ils n'ont encore rien fait de spécial. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, j'ai joué avec l'Égypte, je me suis joué, moqué? C'est qu'en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Moshe, au nom d'Hachem, il a dit à Paro, laisse mon peuple, envoie le peuple qui me serve. Paro a dit non. Il a dit, mais si tu ne fais pas, je te frappe. Alors, Paro n'y a pas cru, il était frappé. Il a dit, oui, je vais faire les choses. Mais arrêtez-le. Alors on a arrêté. Et puis il ne l'a pas fait. Et puis il l'a fait. Le coup, il l'a refait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. C'est quoi ça? Hachem dit, j'ai joué. Je l'ai laissé jouer. Je l'ai laissé penser qu'il était l'empereur d'Égypte et qu'il pouvait me résister, qu'il pouvait faire autrement que ce que je dis. Maintenant, OK, ça suffit. J'ai raconté, je l'ai laissé jouer. Parce qu'il faut, d'une certaine manière, pourquoi il faut expliquer ça? Parce que sinon, on ne comprend pas pourquoi Hachem ne l'a pas frappé tout de suite. D'autant que, en vérité, la première fois que Moshe est allé chez Paro, il a dit à Paro, au nom d'Hachem, laisse partir mon peuple, Israël, c'est mon Bechor. Israël, c'est mon premier-né. Si tu ne laisses pas mon premier-né partir et me servir, je tuerai tes premiers-nés, ton premier-né. Donc ça, il lui a dit avant toutes les makot. Mais finalement, Hachem ne l'a pas fait. Il a dit non, et non, et non, et non. Et Hachem ne fait jamais rien. Il envoie de nouvelles makot, mais et ça ne sert à rien. Donc il faut expliquer aux enfants pourquoi, comment. Comment c'est possible qu'Hachem a laissé cette chose se faire? S'il est tout-puissant, comment? Hachem dit à Moshe Rabbeinu, les Makot, elles ont deux fonctions, donc. Une fonction pour l'Égypte, une autre fonction pour l'Ebné Israël aussi. Qu'est-ce que ça veut dire que Israël est mon Bechor quand Hachem le dit? Bechor, ça veut dire le premier-né. Israël est de loin pas le premier peuple qui a été créé. Il y avait des dizaines, des centaines de peuples avant le clan d'Israël. Israël n'a pas été créé au début de la création du monde. Qu'est-ce que c'est qu'un Bechor? Alors, je répète quelque chose que j'ai déjà dit, mais peut-être tout le monde n'a pas entendu. Il y a dans le mot Bechor quelque chose de paradoxal. C'est que le mot Bechor, qui veut dire premier-né, il s'écrit Bet Kafresh. Et Bet Kafresh, c'est deux dans les unités, deux dans les dizaines et deux dans les centaines. Bet, c'est deux dans les unités. Kaf, c'est deux dans les dizaines, c'est 20. Et Resh, c'est 200. Donc, en d'autres termes, si on écrivait en chiffres, le mot Bechor, ça se dirait 222, quoi. Alors, pour dire le premier-né, un chiffre comme 222, voilà, c'est une provocation, ouais. Et donc, moi, je l'avais entendu au nom de Rabbi Tzra Koutner, mais il paraît que ça existe déjà ailleurs et peut-être même dans les Midrashim. En réalité, le Bechor, c'est quoi? Le Bechor, ce chiffre 2 qu'il y a dans Bechor, qui a l'air d'être essentiel, quoi, puisque ce chiffre 2 qui constitue le Bechor, ça nous dit l'essence de ce que c'est qu'un Bechor. Un Bechor, c'est celui qui est en charge de traduire l'enseignement du Père dans le langage de la nouvelle génération. Lui, il est la charnière. Lui, il est capable d'entendre le langage du Père et il sait le redonner à ses frères et sœurs par la suite dans le langage de la nouvelle génération. Et d'une certaine manière, ça veut dire, disait Rabbi Yitzhak Kouttner par exemple, ça veut dire que il est un deuxième père. Il est le père pour la nouvelle génération. Il est le porte-parole du père dans la nouvelle génération. Si c'est comme ça, alors on peut comprendre pourquoi le clan d'Israël est considéré comme le Bechor d'Hachem. Parce que le clan d'Israël, il est en charge de transmettre l'enseignement d'Hachem aux nations. Il est censé être le modèle. Donc, l'essence du clan d'Israël, quand on dit qu'il est Bechor, ça veut dire qu'il est un transmetteur. Transmetteur de l'enseignement qu'il a reçu, la Torah qu'il a reçue, il doit la faire connaître aux nations. Puisque c'est ça, la tâche essentielle du clan d'Israël, alors on comprend pas mal de choses. On comprend que Hachem justifie en disant, la raison pour laquelle j'ai choisi Abraham, c'est parce qu'Abraham, c'est un transmetteur. Parce que je sais qu'Abraham, lui, va transmettre à ses enfants, à sa maison, etc. Et à terme, on dit que les Bnei Israël, ils doivent être Kohanim, Mamlechet Kohanim. Alors, on traduit royaume de prêtres. Bon, on a déjà dit plusieurs fois que les prêtres en question, les Kohanim, quand on dit prêtres, on met l'accent sur leur travail au Beth Amikdash. Quand c'est les prêtres, alors c'est eux qui servent, ceux qui font les korbanot, etc. Mais en réalité, les Kohanim, ils travaillent en gros 15 jours par an. Puisqu'il y a 24 groupes de Kohanim qui travaillent à tour de rôle. Donc, ils travaillent 5-15 jours par an. Alors, c'est vrai que Yom Tov, tout le monde est sur le pont, c'est vrai qu'il y a le back-office, etc. Mais essentiellement, comme dans leur travail c'est 15 jours par an. Alors, qu'est-ce qu'ils font le reste du temps? Le reste du temps, ils sont censés étudier. Étudier pour pouvoir enseigner. Et donc, ils sont les transmetteurs de Torah. et dire que le but de l'exercice, c'est de faire d'Ebné Israël Mamlechet, un royaume de Kohanim, c'est-à-dire un royaume de transmetteurs. Donc c'est ça la fonction essentielle d'Ebné Israël, dit la Torah, d'enseigner. Donc à tout niveau, si vous voulez, on retrouve cette idée de la transmission. Moshe et Aaron sont allés chez Paro et ils lui ont dit: Ko amar Hashem Elokei ha'Ivrim. Hashem, le Dieu des Hébreux, traduit Ivrim par hébreu, quoi, je parle pas tellement loin. Ivrim, hébreu. Admatai me'anta la'anot mipanai. Shlachami vi'avduni. Vous allez, ils ont parlé à Paro, ils lui ont dit, au nom d'Hachem, ils lui ont dit, jusqu'à quand est-ce que tu vas refuser les anot mipanai? C'est un drôle de mot ici, ce mot, les anot. Rashi dit que les anot, c'est un argument, lit kana, mixerat ani. Ce mot, les anot, il a à voir avec le mot ani. Ani, ça veut dire ani, c'est un pauvre. Donc, quelque part, ils lui ont dit, jusqu'à quand est-ce que tu vas refuser de te considérer comme un pauvre type qui a tout à attendre de moi? Jusqu'à quand est-ce que tu vas accepter que tu n'es rien? Jusqu'à quand est-ce que tu vas refuser de t'humilier devant moi? C'est intéressant, on ne lui demande pas à Paro simplement, on aurait pu lui dire, mais qui te sourd, renvoie, jusqu'à quand est-ce que tu refuses de renvoyer l'Ebn Israël? Non, non, mais c'est tout un processus. Il ne s'agit pas que tu les renvoies, c'est moi avec ma hauteur de. En tant qu'empereur, je les libère. Non, non, pas du tout. Tu vas les libérer parce que tu n'es rien du tout. Parce que tu dois complètement t'écraser devant moi. Alors, renvoie mon peuple, qu'il me serve. Et on lui a dit, donc, si tu ne le fais pas, je t'enverrai les sauterelles. Mais bon, mais. Et Moshe et Aaron sont partis. Et là, du coup, c'est la cour, en fait. Les Avadim qui lui ont dit, dans le passouk, Zain, Vayomru Avde Paro Elav, Admatai Yizel Lanu le Mokesh. Jusqu'à quand on va avoir cette espèce de truc là en face de nous qui nous empêche d'avancer, quoi? Shalach renvoie ces gens qu'ils aillent suivre, qu'ils aillent servir leur Dieu. Est-ce que tu n'as pas compris que l'Égypte était perdue? Donc ça veut dire, les gens qui sont autour de lui, ils disent. Ça suffit. Faut que tu cèdes. Les Khartoumim, ils avaient déjà dit à Kinim. Ils avaient déjà dit, attention, c'est plus de la magie. C'est pas de la magie qu'ils font. Parce que nous, on est les grands spécialistes de la magie. Et ce qu'ils viennent de nous faire là maintenant, avec les Kinim, les poux, on ne sait pas le faire. Parce qu'il y a une règle générale. C'est un secret, c'est jamais. Ça peut être magicien. Bon, faut pas le répéter, mais en dessous d'un certain volume, on ne peut pas faire de la magie. Et les couches, c'est trop petit. On ne peut pas faire de la magie avec des bactéries, avec des virus. Et... Ça n'existe pas, on ne peut pas faire. Ça ne marche pas. Donc ils lui ont dit, Ezba Elohim, c'est le doigt d'Elohim ici. Ça veut dire, il faut que tu cèdes. Non, il n'a pas cédé. Mais maintenant, ils lui disent, jusqu'à quand on va avoir ça en travers de la gorge, quoi? Et il ne cède toujours pas. Alors, il fait comme s'il avait un peu cédé. Il dit, bon, qui est-ce qui part? Alors, mon cher Rabbi lui a dit, on va partir. Les jeunes et les vieux, avec nos fils et nos filles, avec nos troupeaux de petits bétails et de gros bétails. C'est une fête qu'on a. On part avec tout le monde. Alors, Paro leur dit, ben, si c'est comme ça, hein, qu'Hachem soit avec vous. Si je vous laissais partir, en fait. Avec vos enfants. Alors regardez, Ra'a neged pnechem. En face de vous, en horizon, ça veut dire, il y a la planète rouge, quoi. C'est-à-dire, c'est un signe dans l'astrologie. Ça montre qu'il va y avoir du sang versé. Et des morts. Donc c'est dangereux. Alors ne prenez pas vos enfants avec vous. D'ailleurs, les enfants, vous dites que vous allez servir à votre Dieu, les enfants, ils servent pas Dieu, c'est vous. Que les hommes y aillent, c'est tout. Mais ne prenez pas les enfants. Et il les a chassés. Donc ça veut dire qu'il a refusé de faire ce que Moshe lui avait dit de faire. Alors Hachem a dit à Moshe, étends ton bras sur l'Égypte avec les sauterelles, quoi. Et voilà. Et les sauterelles vont envahir l'Égypte. C'est ce qui s'est fait. C'est-à-dire qu'Hachem a fait envoyer un vent qui a soufflé toute la nuit, toute la journée, toute la nuit, et le matin, hein, il y avait plein de sauterelles. Alors les sauterelles sont entrées partout, elles ont tout bouffé de ce qui avait réussi, ce qui n'avait pas été mangé détruit par la foudre pardon, par la grêle. Bon, il y avait des trucs qui avaient déjà été détruits par la grêle. Et maintenant, bon, les sauterelles vont bouffer tout le reste. Du coup, Paro s'est dépêché d'appeler Moshe Aaron. Et il a dit, Khatati, j'ai fauté devant Hachem, votre Dieu, et contre vous aussi. Mais maintenant, s'il vous plaît, juste cette fois, voilà, j'ai fauté, mais priez Hachem, votre Dieu, qu'il enlève cette mort-là. Alors Moshe est parti de chez Paro et il a prié Hachem. Et Hachem a fait souffler un vent dans le sens contraire. Bon, c'est un vent d'est, maintenant c'est un vent d'ouest. Le vent d'ouest, il a jeté les sauterelles dans la mer. Et il n'est pas resté une seule sauterelle dans le pays d'Égypte. Hachem a endurci le corps de Paro et il n'a pas envoyé les bénis Israël. Alors cette maca, elle a un rôle particulier. Jusqu'à présent, les makot, elles se faisaient avec des miracles. Changer l'eau en sang, les grenouilles, les machins, tout ça, c'était des miracles. Ce qu'Hachem va montrer ici, C'est qu'Hachem peut se manifester aussi comme il le veut, avec des processus naturels. Parce que faire souffler un vent énorme qui amène les sauterelles, c'est comme ça qu'on décrit, il y a quelque temps, il y a eu invasion de criquets en Égypte et au Soudan et en Libye, etc. C'était ça. Des vents énormes qui ont amené les sauterelles. Donc c'est un processus qui est décrit complètement naturellement. Il n'y a pas de miracle. C'est tout. C'est un processus standard. C'est comme ça que arrivent les essaims de sauterelles qui envahissent. Il faut qu'on sache qu'Hachem peut, il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Pas seulement qu'il est au-dessus des lois de la nature, mais les lois de la nature, elles aussi, il peut les faire fonctionner comme il veut. Quand il veut, comme il veut. Alors, on voit ici que quand Paro a demandé que ça cesse, il leur demande prier Hachem votre Dieu. Et Moshe, Vayetse Mi'im Paro, Vayater, Moshe Rabbeinu l'a prié. Ça veut dire, c'est pas comme on aurait pu imaginer que, comme la plaie, elle vient pour faire pression sur Paro, bah, une fois que on a décidé qu'on n'avait plus besoin de cette pression, bah, ça s'arrête tout seul. Non, il faut que spécifiquement, il faut que Moshe Rabbeinu nous prie. On verra la même chose avec la plaie des Rochers, des ténèbres là qui vient après. Quand elle cesse, pour que ça cesse vraiment, il faut que Moshe prie. Alors ça veut dire que quelque part, c'est pas automatique, c'est pas. En fait, il agit sur l'ordre d'Hachem et puis ensuite, il faut qu'il prie pour obtenir qu'Hachem veuille bien, hein, arrêter les choses. Hachem répond à sa prière, mais il doit prier. Alors, comme il n'a pas fait ce qu'on lui a demandé de faire, alors, sans avertissement nouveau, Hachem a dit à Moshe, étends ta main dans le ciel et il y aura ténèbres sur toute l'Égypte. C'est ce qu'il a fait. Et Bassouk dit, Lo ravou ish et achiv. Même son frère, on ne le reconnaissait pas. C'était des ténèbres très épaisses. Celui qui était assis ne pouvait pas se lever. C'est-à-dire, ces ténèbres, c'était un peu. La résultante de ces ténèbres, c'est un peu comme la situation de ce qu'on représente à Pompéi. Le type qui a été pris par la lave avec le bras vers le haut, ben, il est resté comme ça. Il ne pouvait plus rabattre son bras. Donc, celui qui a été pris par les ténèbres avec un bras comme ça, ou celui qui était assis ne pouvait pas se lever. Il y avait une matérialité. Ce n'est pas simplement qu'on n'y voyait rien. C'était quelque chose d'une espèce d'épaisseur, quoi. Mais les Bnei Israël, eux, ils voyaient absolument clair. Alors, Paro, à ce moment-là, il a dit à Moshe, allez servir Hachem, vous tous, mais laissez les troupeaux. Ils s'aident jamais complètement. Alors Moshe lui a dit, non seulement on va aller avec nos troupeaux, mais toi-même tu vas nous donner des troupeaux pour apporter ça comme corbanote. Alors Paro, il n'a pas voulu les envoyer, et Paro a dit à Moshe, va-t'en de moi, de chez moi, quoi, et fais très attention, prends garde à ne plus te trouver devant moi, parce que le jour où tu verras mon visage, tu mourras. Alors Moshe lui a dit, Ken, il a bien parlé, je ne reverrai plus ton visage. C'est très étonnant d'abord ces dernières phrases de Paro, parce qu'évidemment que quand Moshe est venu la première fois, ou peut-être la deuxième fois aussi, au palais, Paro a essayé de le tuer. Mais ça n'a pas marché. Alors que tout à coup maintenant, la dernière phrase, il croit que ça va marcher. Ça veut dire je vais te tuer. Comment tu veux? Même que tu n'as pas pu le tuer quand tu voulais, tu ne vas pas plus pouvoir le tuer. C'est quoi? C'est des paroles en l'air, quoi.
C'est comme une menace. C'est une menace que par
Oui, c'est les menaces, c'est tout, mais c'est n'importe quoi. J'ai oublié de dire quelque chose. Quand Paro a dit que si vous partez maintenant avec vos enfants, c'est dangereux. C'est dangereux parce que il y a cette planète rouge qui indique qu'il va y avoir du sang versé, qu'il va y avoir de la mort, des morts, etc. Pourquoi on nous raconte ça? Par la suite, quand les Bnei Israël vont fauter, ils vont faire le veau d'or, par exemple, et quand Hachem va dire à Moshe, laisse-moi, je vais détruire ce peuple. Alors Moshe Rabbeinu, il a saisi la balle au bon, en fait, et il a dit à Hachem, tu vas les détruire. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça, les Égyptiens, ils pourront dire, hein, on avait bien raison, on leur a dit. On leur a dit, au Bnei Israël. Vous avez dans votre thème astral, vous avez la mort à l'horizon. Si vous sortez là d'Égypte, ben, vous allez mourir. Ben, c'est ce qui va se passer. Hein. Les Égyptiens vont dire, ben, Hachem, il les a sortis pour les tuer. Du coup, Hachem ne l'a pas tué. Alors que Moshe Rabbeinu, il a utilisé l'argument de Paro pour dire à Hachem, mais ça va être tranquille à Hachem. Si tu fais ça, tu donnes raison aux Égyptiens, à ce que Paro avait dit. Tu donnes raison à l'astrologie, quoi. Et à ce moment-là, Hachem dit à Moshe, voilà, j'ai encore une dernière plaie, une dernière maka, et après il va céder. Donc je vais lui envoyer la plaie, la maka de la mort des premiers-nés, que l'on avait parlé au tout début, et là il va céder là. Mais avant cela, juste avant ça, Hachem dit à Moshe, d'abord, c'est au verset, le deuxième verset du chapitre 11. D'abord, na be'ozne ha'am. Alors, c'est très étrange. Hachem demande à Moshe de parler au peuple et il dit d'abord, na. Là, ça veut dire s'il te plaît. Ça veut dire, Hachem dit, s'il te plaît, parle au peuple. Qu'est-ce que ça veut dire s'il te plaît? Comme si, là, Moshe, à cause de vous, est en train de demander un service, quoi. C'est quoi exactement? Alors, le problème, c'est le suivant. Le s'il te plaît, je t'en prie, c'est il faut que tu m'aides. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez que dans cet exil esclavage en Égypte, il avait été annoncé dans la vision d'Abraham Avinu au moment de Brit Ben Abtarim, dans l'alliance entre les morceaux. Abraham Avinu était tombé en syncope, etc. Et Il avait eu une vision où Hachem lui avait parlé pendant. Bon, c'était absolument effrayant et tout. Et c'est là-bas que Hachem avait proposé le fameux deal à Abraham. Est-ce que tu veux que ton peuple devienne un peuple comme les autres, qui finissent par mourir, c'est-à-dire, ou bien est-ce que tu veux pour ton peuple que ton peuple passe par le galout, par l'exil, mais que justement ce soit une façon de survivre. Et c'est, mais pour ça, si tu choisis cette deuxième solution, alors ton peuple sera, ils vont être esclaves pendant 400 ans, etc. Et c'est ce qu'Abraham avait choisi. Mais dans ce qu'Hachem lui a dit, après l'esclavage, alors je vais juger le peuple en question, le peuple qui les a réduits en esclavage, je vais les juger. Et les Bnei Israël, ils vont sortir de là avec un grand butin. Alors Hachem dit à Moshe, je crains que les Bnei Israël vont dire, l'exil, l'esclavage, les souffrances, ça, Hachem, voilà. Il avait annoncé, il l'a fait. Mais le grand butin, là, il n'y a rien, quoi. On n'a rien. Donc, s'il te plaît, aide-moi, je veux leur donner un butin. Alors, voilà, c'est la construction du butin en question. Alors, on peut le lire un peu au ras des pâquerettes. Tu demandes au Bnei Israël, alors regardez bien le verset. Donc, d'aber na beozne ha'am, vishalou, et dit au Bnei Israël qu'il. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas rouge. Dit au Bnei Israël qu'ils empruntent ish me'etre'u, chaque homme de son prochain, v'isha me'etre'uta, et chaque femme de sa prochaine, des ustensiles d'argent et d'or. Et Hachem a fait en sorte que le peuple trouve grâce, c'est-à-dire aux yeux des Égyptiens, que Moshe était considéré comme un grand bonhomme en Égypte. Enfin, un très grand bonhomme en Égypte par le peuple et aussi par par les serviteurs de Paro. Et donc ça a bien marché, ils ont bien emprunté. Sauf que, bon ça je vous ai déjà raconté ça, sauf que le Gaon de Vilna dit que jamais dans la Torah, le mot Reuta, le mot Réa, qui est le mot qui est utilisé ici, Réou et Réouta, c'est le même mot que de Ve'ahavta le Réacha Kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le mot prochain dans la Torah, il veut jamais dire un goy. Ça ne peut être qu'un juif. Pourquoi? Parce que mon prochain, c'est celui qui est proche de moi au sens où il a les mêmes mitzvot que moi. Et donc le goy, il n'est pas mon prochain. Donc on ne peut pas lire que ce qu'Hachem a demandé, c'était d'emprunter auprès des Égyptiens. Mais si on n'emprunte pas auprès des Égyptiens, alors où est le butin? Alors le pshat, c'est la chose suivante. La condition d'esclave, c'est quelque chose qui affecte la personne. Donc ça veut dire moralement, ça dégringole. Ils n'ont pas non plus d'énergie pour éventuellement pour se révolter, etc. Quand les esclaves, ils se révoltent seulement si quelqu'un vient de l'extérieur pour leur dire qu'il faut se révolter, que ce soit un marxiste ou ceci ou cela. Alors, le problème, c'est qu'Akash veut sortir les Bnei Israël de l'Égypte. Mais il ne veut pas sortir des individus. Hachem veut sortir un peuple. Ce peuple qui va devenir son peuple. Or, les individus qui sont esclaves en Égypte, ils ne forment pas un peuple. Parce que chacun est pour soi. En particulier, quand on en est à chercher son souffle, on ne peut pas s'occuper de fabriquer des relations avec les gens. Il n'y a pas de relation. Et s'il n'y a pas de relation, il n'y a pas de peuple. Alors, les Bnei Israël ne deviendront un peuple qu'au pied du Sinaï. Mais en attendant, pour les sortir, il faut qu'il y ait un embryon de peuple. Ce n'est pas encore un peuple, mais qu'il y ait quelque chose quand même à partir de quoi on peut fabriquer un peuple. Alors, c'est ça qu'Hachem veut. Il a fait artificiellement en sorte qu'il y ait des relations entre les gens. Je t'emprunte, je te rends, etc. Ça crée artificiellement des relations. Mais avec ça, on n'a toujours pas l'or et l'argent des Égyptiens, hein. Mais l'idée est probablement que quand les Égyptiens ont vu que cette société, cette espèce d'embryon de société qui se manifeste par le, on emprunte, etc., ça met beaucoup d'huile dans les rouages, dans les relations. Et ils se sont dit, ben, nous aussi, on veut en être. Bon, c'est mieux que leur situation à eux. Et donc, puisqu'ils ont voulu en être, bon, ils ont participé eux aussi aux relations d'emprunt et de. Et du coup, on a emprunté aussi aux Égyptiens, mais pas quand on est venu leur demander. C'est eux qui sont demandeurs. Nous, on veut aussi participer au club, quoi, quelque part. Alors, nous, on va aussi vous prêter, etc. OK. C'est comme ça qu'on retombe sur nos pieds avec le pshat du Gaon de Vilna. Maintenant, ce serait ça le butin. Le butin, c'est l'or et l'argent. Enfin, c'est sûr que c'est un butin, mais c'est un peu ras des pâquerettes. J'aurais tendance à dire que le butin, c'est les relations. Ça, c'est beaucoup plus important. Parce que c'est ça qu'il va faire. C'est essentiel pour qu'il devienne un peuple. Sinon, Hachem ne les sort pas d'Égypte. Il n'y a personne pour sortir d'Égypte. Et ce butin-là, ce qui permet la sortie d'Égypte, le butin, c'est la sortie d'Égypte. Mais ce n'est pas simplement la libération d'esclaves qui ensuite vont être abandonnés à leur sort, etc. C'est la libération d'un peuple, enfin d'un embryon de peuple qui va devenir un peuple, qui va recevoir la Torah, qui va devenir un transmetteur de l'enseignement d'Hachem aux nations. Ça, c'est, à mon avis, c'est ça le butin. Mais bon, il y a toujours une lecture basse, si on peut parler comme ça. Ou bien, la lecture, c'est l'or et l'argent. Alors, c'est sûr que cet or et cet argent, d'abord, c'est un butin, mais qui est bien inférieur au butin que les Bnei Israël auront au moment du passage de la mer. Parce que l'armée égyptienne, quand ils ont poursuivi les Bnei Israël qui étaient sortis d'Égypte, les gens, quand ils partaient en guerre, comme ça, si vous avez entendu l'histoire, je sais pas, du camp du drap d'or, etc. Les gens, ils faisaient la guerre avec leur fric. Ils amenaient l'or et l'argent, parce qu'ils ne pouvaient pas le laisser, ou ils allaient le laisser à qui? S'ils le laissaient, ils ne le retrouvaient plus. Donc, ils prenaient leur richesse avec eux. Et donc, quand ils sont tombés dans la mer, ils ont ramassé un butin bien plus important en or et en argent, le butin qu'ils ont sorti d'Égypte. De ce point de vue-là, j'aurais pensé, comme ça, on comprend que, d'accord, Il y avait un but, hein, mais je pense que ce n'est pas l'essentiel.
qui sont vidés l'Égypte. C'est le second but.
Non, quand on dit qu'ils ont effectivement ils ont pris dans l'Égypte, bon, on ne les lit pas comme ça, on dit que ils ont laissé l'Égypte comme une nasse sans aucun poisson. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus rien à faire, c'est la raison pour laquelle on n'avait plus le droit de retourner en Égypte. Parce que la règle générale, c'est que les galouillotes, les exils, ils n'ont été donnés que pour que des guérims viennent s'ajouter au peuple d'Israël. C'est la fameuse théorie des étincelles. Bon, à la création du monde, il y a eu de l'énergie qui était dans des vases, et les vases, ils n'ont pas tenu le choc. Cette énergie, elle s'est dispersée et des étincelles, cette énergie se trouve partout. C'est les bonnes caractéristiques des peuples. Et pour que la fin de l'histoire puisse arriver, Israël doit ramasser toutes les étincelles. Il y a des étincelles qui sont tellement profondes dans les peuples que les bénis Israël eux-mêmes ne peuvent pas aller les chercher. Par contre, les guérims, oui, ils peuvent. Parce que les guérims, ils peuvent, en tant que, avant la guéroute, ils peuvent acquérir ces étincelles. Et quand ils sont mis de guerrière, ils amènent les étincelles avec. Donc, la fonction des guérims, c'est de permettre vraiment, c'est absolument fondamental. L'importance des galouillotes, elle vient de l'importance qu'il y a à en passer par les guérims. Je vous raconte ça. Deux. Ah oui, alors ils ont vidé l'Égypte, ça veut dire qu'ils ont pris toutes les étincelles. Puisque ils ont pris toutes les étincelles de l'Égypte, on n'a plus le droit d'aller en Égypte. Parce qu'on a le droit d'aller dans un pays seulement si on peut en tirer des étincelles. Alors c'est aussi probablement que Alpi Kabbalah, c'est probablement ça aussi le butin. Grand butin. Grand butin parce que l'Égypte, c'était une grande civilisation, donc il y avait beaucoup d'étincelles là-bas. Mais c'était des étincelles qui étaient dans un pays qui est complètement pourri, tellement grossier, etc., que personne ne peut aller le chercher. Il fallait aller là-bas pour fabriquer des guérims, quoi. Et là, on voit que ça fait des guérims. La princesse de la fille de Paro, elle devient guillorette aussi. Donc elle aussi, elle sort des étincelles, quoi. Elle peut aller chercher des étincelles que seule une princesse peut aller chercher. Je pense aussi que c'est pour ça que Yosef est devenu tellement important aussi en Égypte, parce que du coup, il a pu entrer dans les secrets de l'Égypte, en fait, et que Moshe Rabbeinu, il a fait 20 ans pendant 20 ans, il était prince héritier, donc il a dû entrer dans tous les secrets de l'Égypte. Moshe Rabbeinu, ce n'est pas un guerre. Mais il a l'avantage des guérims, quoi, sans le désavantage. Il y a un problème quand même, c'est un peu désagréable, cette histoire de se retrouver avec de l'or et de l'argent qu'on n'a pas rendu, quoi. C'est pas très net. Pas si ça vous dérange. Comme ça me dérange un peu, quoi, quand même. La Gemara, elle traite ce problème. Quand Alexandre le Grand a conquis quasiment tout le bassin méditerranéen, etc., les Égyptiens, ils sont allés chez Alexandre et ils ont dit, nous, on réclame la terre d'Israël. Pourquoi? Parce que les Hébreux, ils nous ont emprunté de l'or et de l'argent, ils nous ont jamais rien rendu. Et on a fait le calcul. C'est une somme tellement faramineuse qu'ils ne pourront pas la payer. Donc, on saisit la terre. Les prétentions des Égyptiens de saisir la terre d'Israël. Ils voulaient leur donner Gaza, ils ne voulaient pas. Alors, Alexandre a convoqué les responsables d'Israël. Il leur a dit, qu'est-ce que, voilà, l'accusation, qu'est-ce que vous dites là? Alors, ils ont dit, donne-nous 3 jours pour réfléchir. 3 jours. Pendant ces 3 jours, il y a un des jeunes, qui a dit au plus grand, il leur a dit, écoutez, laissez-moi aller discuter avec les Égyptiens devant Alexandre. Si je gagne, c'est très bien. Et si je perds, vous direz, mais c'est un petit jeune qui s'est poussé du coude, là, il n'est pas représentatif. Alors vous irez vous discuter avec ce que vous pensez faire. Ils ont été d'accord, il est allé discuter. Alors, il a dit aux Égyptiens, sur quoi vous vous basez pour réclamer toute ces sommes faramineuses? Il dit, nous, on se base sur la Torah. C'est écrit dans la Torah, dans Parchat Bo, que vous avez pris de l'or et de l'argent, mais vous ne l'avez jamais rendu. Alors il a dit, ah, vous vous basez sur la Torah? Alors moi aussi, je vais me baser sur la Torah. Et il a expliqué que les Bnei Israël, ils ont été en exil et ils étaient réduits en esclavage pendant 400 ans. Ils étaient 600 000 hommes, donc 600 000 multipliés par 400 ans, etc. Ça fait une somme bien plus grande que celle que vous nous réclamez. Donc en fait, vous restez nous devoir de l'argent. Les Égyptiens sont partis. Alors, c'est réglé devant Alexandre. Ça pose quand même quelques petits problèmes. C'est que, bien entendu, qu'est-ce que ça veut dire quand il a dit, ah, vous fuyez à la Torah? Ça veut dire, vous lisez la Torah comme vous voulez. Vous lisez la Torah sans les Chachamim, etc. Alors, je vais la lire comme vous lisez la Torah. Dans la Torah, c'est vrai que c'est marqué qu'on sera en exil pendant 400 ans et le chiffre des Bnei Israël, c'est 600 000. Mais on n'a jamais été en exil on n'a jamais été esclave pendant 400 ans, et on n'a pas été durant ces 400 ans toujours à ce chiffre de 600 000, qui était le maximum, en quelque sorte, de ce qu'on a été, disons, si on compte seulement ceux qui sont sortis. Mais à la limite, on peut dire que même ceux qui ne sont pas sortis ont aussi travaillé pour vous, etc. Ok, mais même si on prend que le nôtre. Ok. Donc, il a pris les chiffres et les chiffres tels que les goïms peuvent les lire dans la Torah, quoi. Pas tels que nous les lisons. Parce que nous, le galout, il devait durer 430 ans. 430 ans, si on prend le point de départ, justement, le moment de la vision de l'Abraham, Brit Ben Aptarim, jusqu'à la sortie d'Égypte, ça fait 430 ans. Si on commence depuis la naissance d'Yitzhak, ça fait 400 ans. Et concrètement, on était redous, c'est-à-dire 210 ans, en esclavage. Donc tous ces chiffres-là sont vrais, ça dépend combien, comment on regarde la chose, etc. Mais bon, tout le problème, c'est depuis quand est-ce que le travail des esclaves est payé? Un esclave, c'est quelqu'un qui n'est pas payé. Quelqu'un qui travaille, bon, il est nourri, logé, blanchi avec des conditions qui dépendent de la situation, mais il n'est jamais payé, un esclave. Alors, en vérité, c'est un problème très actuel. C'est le problème des colonisations. Tous les pays aujourd'hui qui ont été colonisés, ils réclament aux pays colonisateurs de les payer. Ils veulent des dédommagements. C'est marqué dans la Torah. D'accord? Il faut les dédommager. Les Israël disent, ça se paye. Alors, est-ce que, en fait, en vérité, l'esclavage lui-même peut-être se paye pas, mais la torture, parce que les Israël n'étaient pas seulement esclaves. Esclaves, c'est du travail. Mais on a fait, ils les ont torturés, ils les ont fait faire du travail à l'envers, etc. Donc, pour ça, peut-être, ça peut se payer. Même si on considère qu'un esclavage, ça ne se paie pas. Mais enfin, aujourd'hui, hein, aujourd'hui, c'est le discours comme standard qui veut, c'est le discours de la décolonisation. Ils disent, voilà, on en a marre du discours de la Shoah, c'est nous les grandes victimes, c'est nous les colonisés, c'est nous qui devons être dédommagés. C'est au nom de, beaucoup au nom de la décolonisation, qu'il y a cet antisémitisme sort d'endroit, de la gauche. On a la marre de la Shoah. Les Juifs ont assez profité de la mauvaise conscience de la Shoah, à cause de la Shoah. Nous, on a mieux. Et on veut, nous, être victimes. Victimes, et on veut être dédommagés. Bon, ça c'est agave. Donc maintenant on est arrivé, alors pardon, on est arrivé à Makkat Bechorot. Donc, Kachatzot Alayla, Ani Yotze, Di Hashem. Umet Kol Bechor Be'eretz Mitzrayim Mipchor Paro, Ayoshev Al Kiso, Ad Chor Hashifcha. Asher achar ha'chaim v'chol b'chor be'ema. On ne comprend pas très bien. Le b'chor de Paro, le prince héritier, les gens, les b'chorot, des gens importants, on comprend qu'il faille. Qu'est-ce que ça veut dire? Chez les goyim aussi, hein, les prorotes, ils jouent un rôle de transmission. Donc, si tu tues les prorotes, ça veut dire que ils n'ont plus de référence, mais ils sont coupés de leur passé. Ils ne peuvent plus lire le passé. La génération ici, elle n'a personne qui lui traduit le langage de. Donc, quelque part, ils n'ont plus de référent. Donc, la culture est fichue, quoi. Ça, on comprend assez bien. C'est-à-dire que ça, la sanction. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il faut aussi tuer le behor de l'esclave qui tourne la meule, etc. Pourquoi est-ce qu'il faut aussi tuer les premiers-nés des animaux? Alors, les premiers-nés des animaux, c'est quand Hachem punit un peuple, il punit aussi les divinités de ce peuple, en fait. Et comme ces animaux ont été adorés, etc., et Ils sont là-dessus, donc ils sont embarqués. Mais pourquoi est-ce qu'il faut tuer aussi le pror de la Chifra? Rachid dit, Sheafhem ayu meshabdim bahem, usmechim betsaratam. Eux aussi, ils profitaient des. Ils asservissaient les Bnei Israël et ils se réjouissaient de leurs ennuis. Alors, ça, je ne sais pas si j'ai raconté que, en fait, il y a un Chiskouni. Le Chiskouni, il a commenté quand Paro a donné l'ordre de ne plus livrer la paille aux Bnei Israël, on avait besoin pour fabriquer les briques, et que les Bnei Israël allaient devoir aller chercher la paille aussi. Ce qui a donc entraîné que de toute manière, ils n'en pouvaient plus, ils ne pouvaient pas fournir les quotas de briques qu'on exigeait de leur part. Donc, bon, ça a toutes sortes de conséquences. Mais du coup, toute la famille a dû aller chercher de la paille parce que c'était pas possible autrement. Et du coup, les Bnei Israël se sont répandus un peu partout dans l'Égypte pour aller chercher de la paille. Et alors, les gens de la campagne, si on peut parler comme ça, eux aussi, ils en ont profité pour taper sur les Bnei Israël qui étaient là. Y compris les esclaves, tout le monde a tapé sur les Bnei Israël. Et le Chiskouni dit que c'est Hachem qui a, en quelque sorte, inspiré Paro dans cette histoire de la paille pour que les Bnei Israël se répandent dans tout le pays et pour qu'ils prennent des coups. Pourquoi? Parce que, vous voyez, ici, Rachir a dit que les prorotes des gens qui, de peu, des esclaves ou enfin, tous les gens qui avaient joué aucun rôle, a priori, ils se sont tous réjouis, par exemple, des tsarot des Bnei Israël, des ennuis des Bnei Israël. Et ceux qui pouvaient, ils ont tapé dessus aussi. Donc, en fait, de se réjouir, c'est déjà suffisant pour être puni. Seulement, les gens vont dire, mais nous, on n'a rien fait, pourquoi? C'est injuste, Hachem, il nous frappe et nous, on n'a rien fait. Alors, Hachem a voulu qu'ils puissent, ne voulait pas qu'ils puissent dire une chose pareille. Donc, on les a amenés. Ce que tu voudrais, c'est frapper. Voilà, tu vas pouvoir frapper un peu. Ils n'ont pas pu faire grand-chose, mais ils ont pu frapper un peu. Et maintenant, ils ne peuvent plus dire on n'a rien fait. C'est terminé. Ils méritaient d'être sanctionnés parce qu'ils se réjouissaient. Mais à ce moment-là, ils ont dit, ils ont crié, c'est pas juste, etc. Alors Hachem a dit, OK, on va vous faire taire là-dessus. Et donc, ça que le proche, ils sont réjouis et ils méritent aussi. J'ai entendu autre chose, une espèce de peut-être un midrash, quelque chose comme ça. Il dit que les esclaves égyptiens, non juifs, ils ont dit à Paro, on va pas se révolter contre toi, etc., à condition que les juifs y soient en dessous de nous. Il fait que les Bnei Israël, ils n'étaient pas esclaves, ils étaient sous-esclaves. Exactement comme pendant la Deuxième Guerre, d'accord? Ils étaient Untermenschen, ça veut dire des sous-hommes. Pas des hommes, des sous-hommes. Des insectes, Il disait à Auschwitz, on n'a gazé que les poux. Partez, machma. Les vrais poux, et les juifs, on considérait comme des poux, on a gazé. problème du langage. Moshe Rabbeinu, il avait dit à Paro que la Makat Chorot, là, il lui a dit, Viardu kol avadecha ele elai, tous tes serviteurs vont venir vers moi, vishtachavu li les morts, et ils vont se prosterner devant moi, et ils vont dire, Tse ata v'chol ha'am asher baraglecha v'achechen. Et c'est mim paro. Et dernière chose que Moshe a dit à Paro, c'est tous tes serviteurs, ils vont venir, ils vont se prosterner. Chazal disent que même à ce moment-là, en fait, Moshe, il a pris des gants pour Paro. Parce que ce n'est pas seulement les serviteurs qui vont venir supplier Moshe. C'est Paro lui-même. Mais il ne lui a pas dit, toi-même tu viendras. Les serviteurs viendront. Il y a toujours une. Quand Hachem a envoyé Moshe à Aaron, et quand il leur a dit, je vous donne une mission, vous allez parler avec Paro et vous allez parler avec les Bnei Israël pour les faire sortir, mais que, faites attention, vous devez parler avec Paro, vous allez lui dire des choses difficiles, mais vous devez marquer du respect pour le roi de, pour l'empereur de d'Égypte. Vous n'avez pas le droit de le mépriser. Jusqu'à la dernière seconde, en fait, on lui donne du kavod. On n'a pas dit que tu viendras, toi, me supplier de partir. C'est ce qui s'est fait. Mais Moshe, il ne lui a pas dit. Et tes serviteurs viendront. Te prosterner devant moi en me suppliant de partir. Et c'est Paro qui viendra supplier. Ça, il ne lui a pas dit. Et Moshe et Aaron ont fait tout ce qu'Hachem avait dit. Et Paro, jusqu'à la dernière minute, il ne voulait pas laisser partir les Bnei Israël. Et à ce moment-là, on n'a pas fini complètement le récit de la sortie d'Égypte, enfin de ce qui se passe dans cette fameuse nuit. Mais. Il y a quelque chose d'autre qui vient, et c'est cette fameuse phrase, au début du chapitre 12, donc. Vayomer Hashem el Moshe vel Aaron, Beretz Mitzrayim lemor. Hashem parle à Moshe et à Aaron, en Égypte, il leur dit, et avec pour eux la tâche de le retransmettre, Achodesh Azel Lachem, Rosh Chodashim, Rishon Hu Lachem, le Chodesh Hashanah. Ce sera pour vous ce mois-là. Le mois de Nissan sera le premier mois de l'année pour vous. Dites aux Bnei Israël que dans ce mois-là, le 10 du mois, Ikrulaem ish se levet avot se labat. Il faudra mettre de côté un agneau par maison. Et si l'agneau, il va falloir le consommer, cet agneau. Et si vous comprenez que vous n'arriverez pas à le manger avec les quelques personnes de la maison, alors associez-vous avec les voisins, etc. Vous allez prendre un agneau pour un certain nombre de personnes, histoire de vérifier que vous n'allez pas devoir laisser de la viande. Parce que ça deviendrait, comme c'est un corban, ça deviendrait notar. Et c'est dangereux parce que notar, on n'a pas le droit de le manger. Si on venait à le manger, on est chayev karet. Et bon, il faut l'otatiro. Vous avez pas, on a, normalement, on n'a pas le droit d'en laisser. Et donc, c'est pour ça que les gens vont devoir se compter. Et compter, voilà, je sais pas, disons que il va falloir manger un kezaït du Corban Pessah. Disons qu'un kezaït de viande, c'est 30 grammes. Alors, s'ils sont 300 personnes, il faudra un agneau qui laisse 9 kilos de viande. À l'inverse, si on achète un agneau, on a trouvé cet agneau-là, ben maintenant il va falloir rameuter les gens suffisamment pour pouvoir manger. Donc ça, c'est tous les dinim qui concernent le Korban Pessah de Mitzrayim. C'est pas exactement le nôtre, ça ressemble, mais c'est pas vraiment le nôtre. On dit comment on doit le manger, etc. Et matzot et tout ce que vous voulez, là, tout ça. C'est assez long. Et puis ensuite, donc, le récit que, voilà, Passouk Kaf Tet, 29. Voyez, Bachatzi Alaïla, à minuit, Hachem y kakol bechor beretz Mitzrayim. Effectivement, Hachem a frappé tous les horot en Égypte, Rodim, depuis. Et à ce moment-là, Paro s'est levé, Vayokom Paro, Laïla, il s'est levé. Ça veut dire que Paro, il allait dormir. Rachid dit, Vayakom Paro, Mimitato. Il allait dormir. On lui annonce qu'Hachem va frapper tous les prorodes du pays. Toutes les annonces qu'on lui a faites sur les 9 précédentes Makot se sont réalisées. Le type, il est capable d'aller dormir. Tous les petits gosses, tous les enfants, ils chantent. Paro en pyjama, Paro en pyjama, il s'est levé au milieu de la nuit pour aller parler avec Moshé. Bon, c'est vrai, il est allé dormir. Pour être capable de dormir. Ben, on va tuer ton fils, on va tuer ton premier-né, on va tuer tous les premiers-nés de toute l'Égypte. Et puis, a priori, tu n'as aucune raison de penser que ça se produit pas. Tout ce qui a été annoncé, c'est toujours. Que ces produits, que ce soit les ténèbres, que ce soit les sauterelles, que ce soit l'eau changée en sang, etc., il va dormir. Est-ce qu'il a pris des. Je connais quel médicament il a pris pour pouvoir aller dans ces bons sens comme celle-là. Il a quand même été réveillé, il s'est levé, lui et tous ses serviteurs, et toute l'Égypte. Et il a appelé Moshe et Aaron. Et il leur a demandé, Kumu tseu mitoch ami, sortez de mon peuple, vous et tous les bnei Israël, et allez et servez votre Hachem, votre Dieu. Et prenez vos troupeaux, etc. Ils ont fait pression sur les bnei Israël, partez, partez, partez. Ah ouais, ils sont partis avec la pâte, là, qui est devenue des matzot, etc. Et on répète qu'effectivement, ils ont demandé Hachem Natan et Trenaam aux yeux des Égyptiens et ils ont demandé, ils ont prêté, ils ont. Et là, on nous dit que les Israël sont partis de Ramsès à Soukhot, vers Soukhot, C'est un endroit, hein, je crois. Et ils sont sortis, 600 000. Il y a aussi des raies braves, on parlera une autre fois des raies braves. Ils ont fait cuire la pâte qu'ils avaient prise. Ça leur a donné des matzot. Et donc finalement, après 430 ans, ils sont sortis d'Égypte. Hachem a redonné la mitzvah du Korban Pessah à Moshe et à Aaron. Ils ont reçu la mitzvah de Kiddush de sanctifier tous les premiers-nés. Aussi du monde animal. Et puis la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, etc. Enfin, il reste beaucoup plus de choses que.